Curiosité, la quotidienne actu locale de Prune. Du lundi au vendredi, de 18h à 19h.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Curiosité, votre émission quotidienne et locale sur Prune 92 FM. Il est 18h, bienvenue à tous, que vous nous écoutiez au bureau, dans la voiture ou sous le soleil printanier. Je m'appelle Emmanuel, j'ai 22 ans et je viens tout juste de rejoindre Prune pour le mois de mai. C'est moi qui serai votre hôte ce soir et qui vous accompagnera pendant une heure pour faire un tour d'horizon des initiatives locales, pour apprécier de la musique et s'émerveiller de photographie. Nous sommes le 23 mai, ce qui me fait penser au fameux tableau 13 de Mayo de Francisco de Goya. Vous savez, ce tableau célèbre où l'on voit un peloton d'exécution face à des prisonniers, avec l'un d'entre eux en chemise blanche qui attire l'œil en levant les bras au ciel. Goya a longtemps été un peintre de la cour royale d'Espagne, mais lorsque la guerre d'indépendance espagnole éclate en 1808, il s'est risqué à en peindre les désastres, comme une sorte de journaliste des temps pas modernes. Il a utilisé un support qu'il maîtrisait à la perfection pour faire connaître cette tragédie au plus grand nombre dans le présent et graver cet événement dans le futur. Dans notre présent à tous, nous sommes tous marqués tous les jours par des scènes de violence, qu'elles soient près de chez nous ou ailleurs. Il peut être difficile de voir ce genre d'image, mais je pense qu'il est important d'en prendre compte pour se saisir de la réalité. Il est aussi important de les documenter, comme le faisait Goya, et je finirai en disant bravo à tous ceux qui prennent des risques pour informer de ce qu'il se passe. Sans plus attendre, voici le programme de curiosité de ce soir. Nous commençons avec Morgane pour le grand entretien. Bonjour Morgane.
Salut.
Tu reçois Sailas, co-présidente de l'association Ingraine et India, une de leurs stagiaires. C'est un collectif qui s'engage dans la promotion des initiatives solidaires et responsables. Ingraine organise la quinzaine du commerce équitable qui débutera le 13 mai. Ensuite, ce sera au tour du Zoom de Chloé. Bonjour Chloé.
Salut.
Tu discuteras avec Ronan Moinet, membre du duo musical La Botanique. Il va bientôt présenter des conférences à propos de l'expérience qu'il a vécue l'an passé, celle de passer une semaine perché dans un arbre. Et pour finir, Sylvain décryptera une photographie dans sa chronique « Écoutez la photo ». Et comme d'habitude, Lola fera gagner des cadeaux en milieu d'émission. Et n'oublions pas Seb, toujours présent à la réelle. Bonjour Seb.
Bonjour.
Il est 18h02 sur Prune et tout de suite le grand entretien avec Morgane et ses invités.
Curiosité, l'entretien.
Ingraine est un mouvement associatif d'éducation populaire composé de bénévoles et de professionnels regroupés au sein d'associations locales d'une union des associations. Vous vous appuyez sur le référentiel éducatif de l'éducation à la citoyenneté mondiale défini par l'UNESCO et vous avez pour ambition de cultiver le sentiment d'appartenance à une humanité commune. Vous aspirez à être tisseur et tisseuse de liens entre les savoirs, les actrices de la société et ainsi des accompagnatrices de l'engagement citoyen vers des territoires plus solidaires et responsables. Ce que je viens de vous citer, vous pouvez le retrouver sur la page « Qui sommes-nous » du site internet d'Ingraine. Bonsoir Sailas et India.
Oui.
Bonsoir.
Vous êtes respectivement le coprésident de l'association Ingraine et l'une des stagiaires, comme ma collègue Emmanuel l'a dit. Alors, on va d'abord parler de l'association. Cultiver le sentiment d'appartenance à une humanité commune, ça reste quand même assez flou et extrêmement large. Alors, comment pouvez-vous expliquer concrètement l'activité de votre association ?
L'éducation à la citoyenneté mondiale, comme tu disais, c'est un concept qui a été proposé par l'UNESCO qui a pour idée de donner accès à chaque citoyen à une connaissance du monde et des enjeux qui ont un impact sur sa vie à la fois à une échelle locale et mondiale, afin qu'il puisse être acteur de ce monde dans lequel il vit et que chaque citoyen et citoyenne puisse s'engager en conséquence. Donc c'est vraiment cette idée-là que porte le mouvement associatif Ingraine et Ingraine Pays de la Loire localement, c'est d'aller informer les citoyens sur une diversité d'enjeux pour leur permettre de s'engager, de connaître d'autres initiatives localement qui agissent déjà et de participer à construire une société plus durable, plus solidaire, qui apporte plus de paix et voilà.
Vous êtes sur tous les fronts, l'écologie, l'économie, la culture, l'éducation et la santé, qui sont notamment des sujets qui vous tiennent à cœur. Mais vous souhaitez surtout un accompagnement pour tous. Alors qu'est-ce que ça veut dire concrètement ?
Ça veut dire que y a pas d'âge pour apprendre, il n'y a pas d'âge pour continuer à découvrir des choses. Et donc la volonté d'Igraine, c'est d'aller toucher un public large, peu importe les cultures, les origines, peu importe l'éducation de chacun, peu importe l'âge et les connaissances déjà acquises. Igraine s'appuie sur la pédagogie active, donc c'est l'idée de rassembler un groupe de personnes et de leur permettre d'apprendre ensemble. Donc avec beaucoup d'outils interactifs où on apprend à discuter, à s'écouter, à débattre. Donc il y a vraiment une volonté de sortir d'une éducation descendante et d'aller permettre à chacun d'apprendre les uns des autres, donc aussi d'apprendre en termes de savoir-être et de savoir-faire. Voilà. Je ne sais pas si je réponds bien à ta question.
Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'aller auprès de la population ? Est-ce que ça passe par des événements qui prennent place ? Est-ce que vous allez directement faire des assemblées, des réunions ? Est-ce que ça s'adresse à absolument tout le monde ? Est-ce que c'est plutôt des chercheurs, des chercheuses, des politiciens peut-être ?
Par exemple, nous on va beaucoup dans des écoles plutôt, dans des collèges. On va aussi toucher les étudiants. Par exemple, moi, je suis les étudiants de Nantes au niveau du commerce équitable. Donc, on va beaucoup toucher la jeunesse quand même, mais aussi, on peut faire des événements plus larges.
On a volonté à la fois toucher la jeunesse dans les actions qui forment la principale activité de l'association. Et derrière, on va essayer de faire des événements grand public qui vont là toucher les personnes intéressées qui en entendent parler, qui sont curieuses et qui viennent découvrir. Et c'est notamment le cas de la quinzaine du commerce équitable dont on va parler tout à l'heure, qui est un événement grand public.
Donc vous nous dites que vous vous appuyez sur l'éducation à la citoyenneté mondiale, dite ECM. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça consiste ? C'est quoi ?
C'est, c'est justement ce principe-là défini par l'UNESCO de permettre à chaque citoyen du monde d'avoir une connaissance du territoire dans lequel il habite, à la fois à l'échelle locale, mais aussi en conscience des enjeux mondiaux, donc tout ce qui est les questions des règlements climatiques, les enjeux sociaux. En fait, il y a beaucoup d'enjeux qui ont un impact pour chacun et chacune. Et l'objectif derrière l'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est de permettre à chacun d'être un citoyen en conscience du monde dans lequel il vit. Donc, c'est vraiment cette idée-là de transmettre le savoir.
Transmettre le savoir et peut-être agir en conséquence après ? Est-ce que vous faites des actions
Parce que souvent, on dit un citoyen qui est informé est un citoyen ensuite qui peut agir. Donc nous, on est vraiment là surtout pour informer les citoyens.
Et on cherche effectivement, parfois, ça dépend en fait beaucoup des formats. Beaucoup de nos formats vont être autour de la sensibilisation parce que c'est la première étape dans la mise en action, c'est de connaître un sujet et de le comprendre. Mais l'idéal, en tout cas quand on peut faire des parcours plus longs dans les collèges, on va partir de la sensibilisation et petit à petit on va aller sur de l'implication, de la mise en action des jeunes qui vont eux-mêmes monter leurs petits projets à l'échelle de leur collège pour en fait vivre déjà une expérience collective d'engagement. Et l'objectif, c'est de voir et de vivre l'engagement et de se rendre compte que c'est possible de le faire à son échelle et de en fait, participer à vos choses qui nous tiennent à cœur.
Vous mettez la coopération au centre de votre action et le programme national coopératif pluriacteur, un univers citoyen, fait partie de ce projet. Est-ce que vous pouvez nous le présenter et nous expliquer ce qu'il apporte à Igraine ?
Alors, le programme un univers citoyen, pour repréciser... Nous, on est membre de l'association Igraine Pays de la Loire. Et le programme Un univers citoyen, il a été monté par l'Union des associations Igraine, qui est une association cœur de réseau, qui a pour objectif, en montant ce programme-là, de permettre aux associations locales de s'approprier certaines thématiques d'éducation en montant en compétences dessus. Et un univers citoyen s'adresse surtout sur les questions de migration. Et du coup, en fait, pour sensibiliser à qu'est-ce que sont les migrations, l'histoire des migrations, le fait que ça a toujours existé dans notre pays comme dans tous les autres, et du coup, un peu sortir des idées reçues là-dessus et de comprendre, d'avoir un autre rapport à l'immigration. À Ygraine, Pays de la Loire, on ne fait pas encore beaucoup d'actions autour d'un univers citoyen, mais il y a un objectif d'aller faire ça aussi, parce que ici aussi, c'est un besoin de parler de ces sujets-là et de mieux les comprendre.
Alors justement, on va continuer de parler un peu de ce programme à travers un événement qui s'est passé le 7 juin 2021. Peut-être que cette date vous dit quelque chose. Vous avez, en tout cas l'association Ygraine, publié une tribune dans Le Monde qui avait pour but de déconstruire les préjugés liés aux migrations, justement. Vous avez pris la décision de l'écrire suite aux attentats qui ont eu lieu dans notre pays ces dernières années. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'impact de cette tribune et si vous avez ressenti un changement aujourd'hui, en 2023?
En toute honnêteté... Je ne faisais pas partie des personnes qui ont monté cette tribune, donc je ne pense pas pouvoir apporter une réponse très satisfaisante à ta question, mais le fait est que le programme Un univers citoyen intéresse beaucoup, et c'était une des grosses actions phares du début du programme, cette tribune qui a permis de dire en fait, ce sujet existe et il faut qu'on soit tous plus conscients de ce que sont les migrations, du fait qu'elles vont... continuer à exister et que ce n'est pas une mauvaise chose, à l'inverse, en fait, ça apporte beaucoup de culture, de diversité, d'histoire. Et il faut connaître, comprendre et accueillir en conséquence.
Alors, c'est déjà l'heure de la pause musicale avec Cocaña, Que son Auros. On se retrouve juste après sur Prune 92 FM.
Kesueiru kauka feipatuzu. Kesueiru luar sukan devija. Kesueiru kauka feipatuzu. Perdun irten lugar su ala duanda. Perdun irten jesu benyerar zin. Perdun irten lugar su ala duanda. Perdun irten jesu benyerar zin. Kesueiru luar sukan devija. Café patuzu, que sueiro lugar sucan de visa, que sueiro cau café patuzu. Perdo irte em lugar sua la aduana, perdo irte em souvenir arzim. Perdo irte em lugar sua la aduana, perdo irte em souvenir arzim. Que sueiro lugar sucan de visa, que sueiro.
venez d'écouter Cocania, Que Son Auros, et on se retrouve pour la deuxième partie du grand entretien avec l'association Y-Gren, représentée par Sailas, co-président de l'association, et India, l'une des stagiaires. Alors maintenant qu'on comprend un peu mieux comment fonctionne Y-Gren et quels sont ses buts, il est temps d'aborder votre actualité un peu plus en détail. Du 13 au 28 mai prochain aura lieu la quinzaine du commerce équitable que vous organisez cette année dans la région. On entend parler du commerce équitable depuis maintenant quelques années, mais la définition n'est peut-être pas claire pour tout le monde et est peut-être devenue un peu floue au fur et à mesure du temps. De quelle façon entendez-vous le terme de commerce équitable ?
Alors le commerce équitable, en fait, ça vise à baisser les inégalités sociales et environnementales causées par le commerce traditionnel, notamment dans les grandes distributions. Il garantit aux producteurs des prix justes pour leur travail et encourage des modes de production respectueuses de l'environnement. Donc ça va être vraiment améliorer les conditions de travail des producteurs et agir pour la planète.
Est-ce que c'est pour toi la même définition, Sailas ?
Oui, avec vraiment cette idée de redonner du pouvoir aux producteurs, en fait, qui le commerce classique va plutôt avoir tendance à imposer des prix avec, du coup, notamment dans les pays du Sud, mais enfin dans les pays dits du Sud, je crois que ce n'est pas une très bonne formulation d'en parler comme ça aujourd'hui, où les producteurs vont être un peu à la merci des grosses entreprises. Et l'idée du commerce équitable, c'est d'essayer d'assurer un revenu décent pour des producteurs, pour qu'ils puissent, par exemple, construire des écoles, se former, monter en compétences, s'installer en agro-industrie, en agroécologie, pardon.
On a parfois l'impression aujourd'hui que le terme de commerce équitable est utilisé à mauvais escient et donc que les gens sont un peu perdus et ne savent plus vraiment à quoi cela correspond ou n'ont pas l'impression que c'est un label entre guillemets valable. Est-ce que c'est un sujet auquel vous faites face, vous ?
On a un atelier qui s'appelle le jeu des labels dont l'objectif est un peu de prendre du recul sur quel label en est vraiment un. Il y a beaucoup de marques de café, par exemple, qui ont leur propre label interne et du coup qui ont un cahier des charges plus léger. Et alors que, en fait, des labels comme Fairtrade, je ne les ai pas tous en tête, mais je les retrouve tout de suite.
Comme je l'ai dit, la quinzaine du commerce équitable aura lieu du 13 au 28 mai prochain et le thème cette année met en lumière les valeurs qui nous rapprochent d'un bout à l'autre de la planète. Qu'est-ce que ça signifie, ce thème ?
Ce thème, on revient un peu sur le côté citoyen du monde. C'est que on vit tous sur la même planète et on a des valeurs en commun et aussi des problèmes en commun, notamment la planète et le développement durable, donc c'est ça, les valeurs qui nous rapprochent tous en tant qu'êtres humains.
Avec cette idée, en fait, quelque chose qu'on peut réévoquer très rapidement, on était venu il y a 2 mois pour parler de ça, Y-Gren Pays de la Loire s'est marié avec l'association NAPS, Nord-Sud Agir pour le commerce équitable, qui historiquement porte le commerce équitable, et dans ce mariage et cette fusion, en gros, on a Y-Gren Pays de la Loire avec cette vision un peu d'éducation à la citoyenneté mondiale, cherche à se centrer sur qu'est-ce que la consommation responsable avec le commerce équitable comme une manière de se questionner sur comment est-ce qu'on consomme. Mais en fait, il y en a plein d'autres. Il y a des initiatives très locales, des manières d'aller consommer chez des producteurs locaux, mais en fait la consommation ça s'adresse aussi à des vêtements, ça s'adresse à... En fait, on consomme de plein de manières dans nos vies, et l'objectif là de la quinzaine, c'est vraiment de parler de ça, et de parler de comment est-ce qu'on peut mieux consommer.
Il y aura une dizaine d'événements qui prendront place dans la région nantaise. Certains sont accessibles sur inscription, d'autres sont en entrée libre. On aura entre autres des dégustations, des wine tasting, des déjeuners, des jeux. Mais l'une des animations m'a assez intriguée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consistera la conférence gesticulée qui aura lieu le 16 mai à 20h à la Maison des syndicats à Nantes ?
Tu nous pose une petite colle parce que c'est pas nous qui l'avons organisé. Mais c'est le temps fort de la quinzaine parce que c'est un événement grand public avec lequel voilà, il y a de la place pour beaucoup de monde. Et
du coup, est-ce que vous savez, c'est un invité, c'est quelqu'un d'Igraine qui va l'animer ?
Non, donc c'est deux personnes extérieures. Donc ça s'appelle « L'écologie sans lutte des classes, c'est du gaspillage ». Donc c'est une conférence gesticulée qui va être animée par Jean-Baptiste Combi et Anthony Pouliquin. Et pour sauver la planète, tout le monde s'accorde là-dessus. Il faut changer la société. Et c'est lorsque l'on précise les modalités de ce changement que les choses se corsent. Ça veut dire quoi, changer la société pour sauver la planète? Donc c'est de quoi ils vont parler dans cette conférence gesticulée.
Ok, et gesticulée, est-ce qu'on peut préciser pourquoi gesticulée?
L'idée d'une conférence gesticulée, il me semble, c'est de lier quelque chose d'un peu théâtral avec de l'animation, de l'humour aussi.
Quelque chose d'un peu artistique, quoi,
ouais,
lié à une sensibilisation justement sur le commerce équitable.
C'est ça, c'est une démarche à la fois artistique et là, comme disait India, au-delà du commerce équitable, c'est vraiment se poser la question, bah, en fait, comment est-ce qu'on lie les enjeux d'écologie et les enjeux sociaux, qui souvent sont assez difficiles à rapprocher. Bon, on voit de plus en plus dans les mouvements sociaux, fin du monde, même combat, c'est des choses qui changent, mais voilà, c'est une conférence sur ce sujet-là.
Sur le site de la quinzaine du commerce équitable, on peut lire que la loi climat et résilience de 2021 va également rendre obligatoire le recours à des systèmes de garantie ou labels, on en revient au label, reconnus par la plateforme RSE. Est-ce que vous pouvez nous expliquer plus précisément ce que ça implique tout ça? Ça fait beaucoup de termes un peu compliqués.
Ouais, mais tu vas chercher les petites questions difficiles, je ne pourrais pas répondre là-dessus, désolé.
Sinon, pour nos auditeurs et auditrices, qui se pose la question et que ça intéresserait, est-ce que vous avez des bénévoles et si oui, pour quelle mission, que ce soit pour Igraine ou le commerce ou la quinzaine du commerce équitable?
Oui, au sein d'Igraine Pays de la Loire, on a des bénévoles, mais on en recherche toujours. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Et après, donc, il n'y a pas que nous qui faisons les activités. Il y a d'autres associations comme Artisans du Monde. C'est là où va se passer la dégustation gratuite. Donc, il y a les bénévoles d'Artisans du Monde. Il y a aussi CCFD Terres Solidaires, donc qui vont animer le vide dressing et aussi les jeux de société. Donc voilà, qui ont aussi des bénévoles. Donc, ça va être des bénévoles de plusieurs associations réunies pour cette quinzaine.
D'accord. Et au quotidien, ils font dans votre association, ils font d'autres choses? Est-ce qu'ils vont participer à peut-être justement les animations au collège, comme vous dites?
En fait, en termes d'accueil, de mobilisation citoyenne, on cherche à proposer des actions grand public, dans lesquelles, là, du coup, c'est des actions de rue ou lors d'événements qui touchent le grand public. Et là, notre objectif est d'impliquer des bénévoles qui le souhaitent sur l'organisation de ces actions-là. Donc là, ça peut être la quinzaine. Bon, on est plus au stade de l'organisation, mais dans des actions, être présent, découvrir l'assaut et petit à petit s'impliquer aussi dans de l'animation, c'est une possibilité. Ensuite, quand on va dans des collèges et des lycées, il y a toujours un animateur professionnel, donc un de nos salariés, un ou une. Et par contre, c'est possible de co-animer. Qu'on propose pour les bénévoles des formations être animateur A, qui dure une journée. Il y en a une pendant la quinzaine, ce qui est être animateur à la consommation responsable, avec l'objectif du coup de permettre à nos adhérents, nos bénévoles, de se sentir plus légitimes à parler d'un sujet et animer une formation.
Eh bien, merci à Silas et India d'avoir été au micro de Prune ce soir. Et merci d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle donc que la quinzaine du commerce équitable aura lieu du 13 au 28 mai prochain. N'hésitez pas à y jeter un œil.
Merci beaucoup Morgane et merci à l'association Igraine d'avoir accepté notre invitation. Il est 18h25 sur Prune. Maintenant, place à la pause cadeau avec Lola.
La pause cadeau.
Ouais. Aujourd'hui, Prune te propose de remporter des places pour Ron Gallo, Ostéro, qui sera au concert du Ostérolix le mardi 9 mai. Il est chanteur et musicien américain avec un style alternatif indé. Alors, tente de gagner l'une des places en nous envoyant un message sur Instagram de Prune. Et on retourne doucement avec la suite de l'émission et pour vous faire aussi découvrir cet artiste avec le morceau I Love Someone Buried Deep Inside of You de Ron Gallo. C'est tout de suite sur Prune.
I can't believe you let it get this far. I can't believe you don't have any control. Here I am, there is nothing I can do. I love someone buried deep inside of you. I love someone buried deep inside of you. You ask me if I still love you so. What do I say when I know it's not you? I love someone buried deep inside of you. I love someone buried deep inside of you. And I'm hoping I get to see you again, 'cause I know that love is true. I love someone buried deep inside of you. Just watch you die by your own hand. I can't lie here beside a shadow of yourself, but I do, because I love someone buried deep inside of you. I love someone buried deep inside of you. And I'm hoping I get to see you again, 'cause I know that love is true.
C'était I Love Someone Buried Inside of You de Ron Gallo. On retrouve à présent Chloé pour le Zoom qui reçoit Ronan Moinet.
Curiosité. Le Zoom Actu.
Bonjour Ronan Moinet.
Bonjour.
Vous êtes un ancien ingénieur agronome devenu artiste, notamment au sein du duo de pop végétal La Botanique. Et il y a un an, en avril 2022, vous vous êtes lancé une aventure un peu perchée, celle de vivre une semaine en autonomie entre les branches d'un chêne centenaire.
à 25 mètres de hauteur au cœur du parc du Grand Blottereau, vous vous donnez comme objectif de percevoir le monde à la manière d'un végétal. Et aujourd'hui, vous revenez au pied de cet arbre pour nous proposer des conférences perchées lors desquelles vous contez le récit de cette expérience et vous invitez le public à écouter les sons nocturnes du parc. J'aimerais commencer cet entretien en faisant un retour sur votre expérience d'il y a un an, quand vous vous êtes lancé le défi de vivre une semaine d'autonomie coupée du monde en haut de ce chêne. Qu'est-ce que vous avez en tête au départ comme objectif ?
Alors au départ, l'objectif, il est de conscientiser ce que c'est que la condition végétale. En fait, c'est un moment où je lisais pas mal des récits de Philippe Descola, notamment, qui est un ethnologue, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Part de nature et culture ». Et donc, qui explique que la définition du mot nature, elle a été créée en Occident. Il y a des populations qui n'ont pas ce mot nature, et en le créant, eh ben, l'être humain s'est exclu de cette nature, parce qu'il y a la nature et l'être humain. Et donc, du coup, ça pose des gros problèmes aujourd'hui, parce qu'on ne se conscientise pas comme faisant partie du monde vivant. On se perçoit à part, d'une certaine manière. Et donc, moi, j'avais envie de me replacer dans ce monde vivant, vivant parmi les vivants, et notamment essayer de comprendre ce que c'est que la vie d'un arbre, enfin, la vie d'un végétal d'abord. Et au départ, je me suis dit, une petite pousse d'herbe, c'est un peu plus compliqué à habiter qu'un arbre. Et du fait de ses dimensions, l'arbre, il permet d'être avec lui à l'intérieur, et donc d'essayer de se mettre à sa place. Et donc, j'ai monté dans cet arbre la nourriture qu'il me fallait pour ne pas avoir à y penser pendant 7 jours, l'eau nécessaire, de quoi dormir, etc. Enfin, tout ce qu'il fallait pour essayer d'être le plus immobile possible et essayer de conscientiser ce que c'est que d'avoir des branches, ce que c'est que d'avoir des racines, ce que c'est d'être un être vivant qui en accueille énormément d'autres, finalement. Tous ces animaux, tous ces insectes, voilà.
Alors du coup, l'idée de ce projet, c'est donc de percevoir le monde à la manière d'un végétal, donc d'un arbre en l'occurrence. Du coup, quelle en est votre conclusion ? Comment vous décrirez cette perception du monde ?
Eh ben, en quelques mots, ça va être compliqué. Mais parce que finalement, c'est un être qui est tellement différent de nous que c'est extrêmement difficile de le décrire. D'abord parce que on a, d'une manière ou d'une autre, on essaye de parler de cet arbre, de ce qu'il fait, de ce qu'il pense. Mais à chaque fois qu'on dit des mots tels penser, vivre, faire quelque chose, on met une intention derrière. Et finalement, je me suis rendu compte que tout le vocabulaire qu'on a, il est destiné aux êtres vivants qui ont des intentions comme les animaux. Donc en fait, on n'a presque pas de mots pour parler du végétal et pour parler de sa condition, sa manière d'être. Donc je me suis rendu compte que c'était quelque chose de très 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 difficile. Et dans cet arbre, finalement, au cours de l'expérience, j'ai plongé de plus en plus dans ce qu'il pouvait être. J'avais l'impression d'être de plus en plus comme lui. Et notamment, ce qui a été le plus fort, je trouve, dans cette expérience où j'étais dans un état de conscience modifié, je pense, je me suis mis à conscientiser les racines de l'arbre. Donc, c'est très simple, elle agrippe la terre. On a tous cette image de ces racines qui courent un peu partout et qui agrippent le sol. Et en fait, j'ai commencé à me dire, mais peut-être que pour un arbre, l'air, c'est une matière qui est aussi solide, presque tangible, et que ses branches, elles agrippent l'air autant que ses racines agrippent le sol. Et donc, je sais pas, j'ai commencé, quand j'étais tout seul là-haut, et puis il y avait mes bras, mes mains, mes articulations qui commençaient à devenir un peu branches presque, où je testais des positions, c'est quoi d'avoir des branches, etc. Et je me suis mis à être très très fasciné par toutes ces cavités d'air qu'il y a entre ces branches. Et en fait, je me suis dit que ces cavités, c'était des espaces entiers où des habitants gravitent finalement, des chenilles, des oiseaux, et puis toutes ces feuilles qui font partie de cet arbre. Et à tel point que, en fait, je tenais un carnet écrit, et ce carnet, j'écrivais. J'avais pas l'heure dans l'arbre, mais en fait, à la relecture, je me suis rendu compte qu'il s'était passé plusieurs heures d'écriture, vu la quantité de texte qu'il y a. Mais en fait, dans ma tête, j'ai eu l'impression que ça avait duré 10 minutes. Donc c'est pour ça que je dis que j'étais dans un état de conscience un petit peu modifié, qui s'est terminé par un espèce d'état où j'ai commencé à avoir peur d'être tant fasciné par ces bulles d'air. Je me suis dit, mais je vais finir par me foutre en l'air et sauter dans ces bulles d'air. Et du coup, j'ai pris peur. Et ça m'a remis dans ma condition d'animal, finalement, puisque la peur, je pense que c'est vraiment quelque chose d'animal. Et ça, je l'ai aussi ressenti le sixième jour. Les Nantais doivent s'en rappeler, il y a eu un énorme orage. C'était pendant le deuxième tour des présidentielles. Et il y a eu un orage gigantesque. Et en fait, tous les animaux qui étaient dans cet arbre se sont littéralement barrés, quoi. tous les oiseaux sont partis, tous les insectes, j'en voyais plus aucun, alors que j'avais commencé à tisser des liens avec tous ces êtres vivants. Et là, je me suis dit, c'est bien beau de se prendre pour un animal, mais en fait, l'animal, il a la peur qui fait qu'il a du mouvement. Le végétal, je ne peux pas affirmer qu'il n'a pas de peur, mais je pense qu'il n'a aucune raison évolutivement d'en avoir. Parce que sinon, ça serait vraiment une torture d'avoir peur et de ne pas pouvoir bouger. Donc finalement, c'est assez drôle parce que la manière dont je définis le végétal, enfin, j'essaye de le définir en tout cas, c'est presque en le comparant à un animal, on a toujours des comparaisons. Et ça, c'est des logiques perspectivistes qui sont développées par Philippe Descola, dont je parlais au début, justement.
Racontez-nous un peu comment vous viviez pendant cette semaine d'autonomie à 25 mètres du sol. Est-ce qu'il y avait quand même des installations prévues ? À quoi est-ce qu'elles ressemblaient ?
Alors en fait, on avait tendu un trampoline. Je ne sais pas si tout le monde voit les trampolines qui sont dans les jardins, qui sont un peu moches, qui tiennent tout seuls debout. Donc on avait enlevé les parois latérales et on avait gardé juste l'arceau du trampoline et on l'avait tendu en l'air. Et là-dessus, il était tendu avec des cordes et sur ces cordes, j'avais tout mon matériel qui était installé. Mon matériel de prise de son, mon matériel de prise de notes et ce qu'il faut pour vivre pendant une semaine, quoi, surtout de la nourriture et de l'eau. Et au-dessus de ça, j'avais un hamac avec une toile de tente tendue autour qui me permettait de dormir. Il y a beaucoup de mouvements au haut d'un arbre. Et donc le hamac bougeait pas mal, mais j'étais plutôt bien là-haut. Donc c'était ces deux étages sur lesquels je vivais.
Quand on pense à la nature, au grand air, on pense généralement à de grands espaces verts, à la campagne, la montagne, aux forêts et jungles, mais un peu moins à un parc nantais entouré par la ville et l'humain. Quel est votre constat après une semaine au cœur du parc, jour et nuit ? Est-ce qu'il y a plus de nature qu'on le pense dans ce parc ?
C'est vrai qu'on a tous des espèces de fantasmes de ce qu'est la nature, quoi, parce qu'on a tous grandi avec des documentaires où il y a des animaux magnifiques, il y a des grandes montagnes. Je pense au truc de David Attenborough sur la BBC, c'est juste magnifique. C'est vrai que cette nature, elle est belle. Mais en fait, ça pose une problématique parce que si on envisage que cette nature de l'autre bout du monde, on voit plus celle qui est à côté de chez nous. Et si on réfléchit vraiment, qu'est-ce que le sauvage ? Est-ce qu'un arbre qui est au milieu d'un rond-point, il est moins sauvage qu'un arbre qui vit au fin fond du Nevada ? A priori, en fait, il a juste un mode de vie qui est assez proche. Ce qui l'entoure, c'est différent, mais sa manière d'être au monde, elle est la même. Donc en fait, je pense que ce sauvage, cette nature, je milite pour qu'on se la réapproprie, pour qu'on reconsidère ce qu'il y a au pied de chez nous, juste à côté. Donc, je vais pas mentir, à la base, je l'avais imaginé ce projet en allant dans une forêt, dans les Alpes, dans les Vosges, dans les Pyrénées, parce qu'il y a plein de choses magnifiques en France. Mais en fait, je suis hyper content, on m'a proposé cet arbre dans le parc. Et je suis hyper content de l'avoir fait là, parce que ça permet de se rendre compte que la nature, elle est toute proche. Et en fait, il y a plein d'êtres vivants qui gravitent autour de ces arbres qu'on côtoie au quotidien.
Pendant cette semaine d'autonomie, vous avez capté des sons depuis l'arbre pour saisir le paysage sonore du parc. Et lors de vos conférences qui se déroulent en soirée de 21h à 23h, vous invitez le public à écouter à leur tour les sons nocturnes du parc. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce paysage sonore ? Qu'est-ce que l'on y entend exactement ?
Du coup, ça rebondit avec votre question précédente, puisqu'en fait, c'est un écosystème particulier dans ce parc et qui est entouré de villes. Et donc finalement, c'est qu'est-ce que le son de la nature entouré de la ville ? Ce qu'on appelle la biophonie et l'anthropophonie. La biophonie, c'est le son du vivant, et l'anthropophonie, c'est le son de l'homme. Je ne suis pas tout à fait raccord avec ces définitions, parce qu'encore une fois, c'est mettre l'être humain en dehors des sons des autres êtres vivants. Mais bref, c'est une définition qui est assez simple à comprendre. Mais en tout cas, dans ce parc, la nuit, on entend le bruit des feuilles, on entend le bruit du vent, on entend le rossignol Philomèle, qui est un rossignol qui chante la nuit, tant qu'il n'a pas trouvé sa compagne pour l'année. Donc, par exemple, on entend le vol des chauves-souris, on entend le bruissement des feuilles, parce qu'il y a plein d'insectes qui vivent à l'intérieur. Donc c'est aussi se reconnecter à ça, et ce que je trouve très beau dans le son, et c'est pour ça que j'adore la radio, j'adore la création radiophonique, la musique, on a tous notre imaginaire avec le son. C'est pas comme la vidéo où on prend quelque chose dans la vue et on n'a plus rien à créer dans notre cerveau finalement. Alors que le son, il va déclencher des imaginaires, il va déclencher, rien que le bruit d'un canard. En fait, quand on l'écoute vraiment et qu'on ne sait pas que c'est un canard, on a l'impression que c'est une bête féroce qui vit dans le fond d'une forêt. Et ça, c'est quand même beau de se dire, mon cerveau, il est en train de créer quelque chose de nouveau et tous les cerveaux qui sont ensemble, bah, ils créent des choses différentes. Et si on dialogue, si on se met ensemble, bah, on crée des images, on crée des imaginaires, on crée de nouvelles histoires. Et ça, c'est ce que j'ai envie de faire au pied de cet arbre.
Avec Les Sons Captés et une note prise dans votre carnet de bord, vous avez pour projet de créer une série radiophonique qui devrait sortir à l'automne 2023. Quelle forme elle prendrait, cette série, ce podcast ?
Alors ce podcast, il aurait la forme de 7 épisodes, vu que c'était 7 jours. En fait, j'ai envie de garder cette chronologie. Et donc, au cours de ces épisodes, bah, on plongera de plus en plus dans ce que c'est que la condition végétale, avec ce climax qui est cette folie quand je me suis mis à conscientiser ces bulles d'air, et puis cet orage qui finalement vient reconsidérer ce que c'est que d'être un animal. Et au milieu de tout ça, bah, y a eu plein d'échanges avec des chenilles, avec des piquets-pêches, avec plein d'oiseaux, avec l'odeur de l'écorce de l'arbre. C'est toutes ces images que j'ai envie de manipuler, parce que moi, quand je repense à cette aventure, je vois ces images. Mais justement, je n'ai pas envie de les montrer, j'ai envie de les dire, j'ai envie de leur donner du son pour que les gens ne voient pas ces images en particulier, mais voient les leurs, quoi, qu'il y ait un aller-retour entre l'imaginaire et la réalité et une expérience qui est passée.
Ce projet qui va donc de votre semaine en automobile dans un chêne centenaire au podcast en passant par les conférences perchées, finalement, est-ce qu'il n'a pas aussi une dimension écologique ? Prendre le temps d'observer la nature, de la connaître, de comprendre sa complexité et le partager, est-ce que ce n'est pas un moyen pour mettre un peu en lumière sa richesse et sa fragilité et appeler à le protéger ?
Ouais, on peut dire tout ça, je pense, ouais, carrément. Moi, je pense que le moteur, c'est vraiment la curiosité, quoi. Et il y a une telle curiosité possible avec le monde vivant qui est génial. Donc se reconnecter à tout ça, c'est aussi, en fait, c'est se faire un cadeau. On s'ennuie plus jamais, en fait, si on s'intéresse aux choses. Et donc du coup, je trouve que le monde vivant, c'est ça, c'est une beauté, c'est des millions d'années d'évolution. Donc y a plein de choses qui se sont créées, et ne pas les oublier et leur donner de la valeur et se repenser au milieu de tout ça. Je trouve que ça englobe plein de choses, ça englobe de l'écologie, ça englobe de la politique, ça englobe nos futurs à tous, ça englobe notre perception du monde. Enfin, tout ça est dans l'écologie finalement. Donc oui, c'est à fond un truc comme ça, quoi.
Est-ce que pour clôturer, vous auriez un moment fort, un souvenir marquant positivement de cette semaine d'autonomie à nous partager ? Quelque chose que vous avez aimé au quotidien ?
Eh ben, là comme ça, le premier truc qui me vient, c'est le premier soir que j'ai passé dans l'arbre où j'étais allongé sur ce trampoline. Et j'avais les mains derrière la tête, vraiment complètement allongé. J'ai fermé les yeux. En fait, c'était le soleil couchant, donc il y avait la lumière un peu rougeoyante qui descendait sur le tronc de l'arbre, le tronc du chêne. Et donc, je me suis un peu assoupi, j'ai fermé les yeux, je les ai réouverts, je sais pas, une dizaine de minutes plus tard. Et là, il y avait plus la lumière du soleil, mais il y avait une tache un peu rousse, orangée, quoi. Et du coup, j'ai mis un petit peu de temps à capter. En fait, c'était un écureuil qui était en train de descendre tout doucement sur le tronc. Et je sais pas comment fonctionnent les yeux d'un écureuil, mais j'ai l'impression qu'il ne pouvait me voir que si j'étais en mouvement. Parce que je suis resté complètement immobile, et lui, il a pris le temps de descendre, mais il est venu à, je sais pas, 1m50 de moi. Donc j'étais très étonné, surtout pour mon premier jour, je trouvais ça assez magique. Et sauf qu'il y a un espèce de truc qui s'est déclenché dans ma tête, où je me suis dit, je trouve qu'il va venir me piquer mes céréales que j'ai pour le matin, il faut que je garde à manger. Donc j'ai fait un mouvement brusque, et là, il a complètement flippé, il s'est barré. Donc je pense que c'était aussi, ça dit plein de choses, ça dit qu'on peut se reconnecter à ces animaux assez facilement finalement, et ça dit aussi que on n'oublie pas nos instincts qui sont ceux de la nourriture. Ça paraît un peu dérisoire, mais je pense que c'est un truc assez normal d'avoir ce genre d'instinct quand on est dans un milieu en autonomie et seul, quand bien même c'est au milieu d'une ville, quoi.
Merci beaucoup Ronan Monet.
Merci
vous proposez donc ces conférences perchées les mercredis 17, jeudi 18 et vendredi 19 mai, ainsi qu'en juillet les jeudis 21 et vendredi 22. Elles se tiendront au pied du chêne centenaire du Grand Parc du Grand Blottereau, en haut duquel vous avez passé une semaine en autonomie l'année dernière. Ces conférences, qui se déroulent en soirée de 21h à 23h, seront l'occasion de découvrir le récit de votre aventure et d'écouter à notre tour les sons nocturnes du parc.
Merci Chloé et merci Ronan Moinet. Avant de terminer avec la chronique Écoutez la photo de Suvan, je vous laisse avec une pause musicale Wild West de Logic.
Oui, c'est un Wild Wild West. Yeah. word for the look of you with them, you know. Yeah, Selassie, I know them. I pray for them.
Then it's coming like the wild, wild west. Little youth need a bulletproof vest.
You need a bulletproof vest.
It's coming like the wild, wild west. Little youth need a bulletproof vest.
Put on your bulletproof vest.
Sing the blues on this one, my brother.
You know that, my lad.
Cause it's crazy how many young ones are dying, killing each other.
Ready,
coming like the wild, wild west. Little youths need a bulletproof vest.
Need a bulletproof vest.
Coming like the wild, wild west. Little youths need a... Listen, look, look. I said the streets ain't safe for the kids. Every day I hear a kid got shot.
Too many, too many.
For no real reason and nobody knows who, where or what. The streets ain't like how it was, see, I used to just chill on the block. And now the estates are all gone and all the youth centres got locked. In Brixton they moved in the rich folk and all the rich folk got robbed. See, this couldn't happen in the streets if policemen were really on job. See, I don't glorify the thing, see, I want all the nonsense to stop. But don't blame the pawns for the game, blame the people that's sitting on top. Look, London's coming like the wild, wild west. Little youths need a bulletproof vest. London's coming like the wild, wild west. Little youths need a bulletproof vest. London's coming like the wild, wild west. Little youths need a bulletproof vest. London's coming like the wild, wild west. Little youths need a bulletproof vest. Okay, look. The streets ain't safe for the kids, young ones getting stabbed in the bits.
See that, see that.
They can't just walk anywhere, they gotta know whose estate that it is. Kids kill each other over postcodes, trying to rep the place that they live.
You're mad.
But no one owns the estates are all owned by the rich.
You know that, you know that.
I hate the police for many reasons, the main one is that I hate pork.
Damn right.
And because they think that they're elite and they think that they're above any law.
Above the law.
The rich get killed and the murderers found, it's not the same for the poor.
You know that.
Don't blame the pawns for the war, blame the people that's shutting all the doors. Mad. London's coming like the wild, wild west. Little youths need a bulletproof vest. London's coming like the wild, wild west. Little youths need a bulletproof vest. London's coming like the wild, wild west. Little youths need a bulletproof vest. London's coming like the wild, wild west. Little youths need a bulletproof vest.
From Brixton to Peckham, New Cross down to Lucian, from Hackney to Tottenham, Stonebridge to Alston. War it a go on, it a go on, it a prolong. Drive-by shooting every day is a gangbang. Ragamuffin in session. Look how them a kill off themself one-one. Say put down the knife and put down the gun. Let's get together and have some fun. Cause the way you a move, man, your life so done. Mama, she a ball through them, just kill her son. Daddy him go over the burying ground. And flowers and wreath, everybody come down. That's why me a beg your youth put down the gun.
You know, we've heard about it from Mark Duggan to Smiley Culture. There's been many deaths in police custody and unfortunately not one officer has been prosecuted yet.
London's coming like the wild, wild west. Little youths need a bulletproof vest. London's coming like the wild, wild west. Little youths need a bulletproof vest. London's coming like the wild, wild west. Little youths need a bulletproof vest.
C'était Wild West de Logic. À présent, nous écoutons Suvan pour sa chronique Écoutez la photo.
Curiosité, les chroniques de la rédaction.
Au milieu, une silhouette qui se détache du sol dans un panache de fumée. Le sol étant humide, il y a un reflet, c'est en noir et blanc. Ah non, en fait, c'est en rouge. Un tag sur un mur où l'on voit écrit « pute vénère et révolu » et la silhouette de dos avec le bras qui est en train de finir d'écrire « révolutionnaire » en noir de la et donc la personne qui tag en noir. À gauche sur le bord. En fait, c'est un panache de fumée dans la nuit, éclairé en rouge, qui prend toute la photo. Et en bas, en contre-jour, se dessinent les silhouettes d'un groupe de gens, les bras en l'air. En fait, c'est en noir et blanc, au milieu, sur toute la longueur de la photo. Des têtes casquées, derrière des boucliers, au milieu, une tête un peu plus haute, avec un casque aussi, mais la visière n'est pas baissée. Le regard croise mon objectif, la personne a l'air au bout du rouleau. Et souhaite être tranquille. Non, en fait, c'est quelqu'un accroupi derrière un scooter. Ses mains gantées posées sur le coffre de ce dernier. Un panache de feu s'échappe de ses mains, comme s'il vient de tirer un feu d'artifice. Et puis, juste derrière, il y a une personne qui semblait... Non, pardon. En fait, c'est un portrait américain. Oui, c'est ça. D'un type à la démarche nonchalante, une main dans la poche, épaule décontractée, qui tient son portable au niveau de la poitrine pour filmer, mais discrètement. Non, en fait, c'est un gros plan sur une perceuse. Oui, c'est ça. Une perceuse, puis il y a la main qui tient la poignée et l'autre qui appuie à l'arrière pour donner plus de force de percussion. Et le forêt qui rentre dans une serrure. Non. En fait, c'est une façade d'immeuble. Les premiers, deuxième et troisième étages, une fenêtre à chaque étage. Au deuxième, la fenêtre est ouverte. Quelqu'un y est accoudé, la main sous le menton pour tenir la tête, qui regarde vers le bas, dans la rue. Non, pardon. En fait, c'est une ligne de fuite. Voilà, c'est ça. C'est une ligne de fuite qui va à peu près vers le coin supérieur droit de la photo. Et puis, il y a des bandes en tissu qui remplissent toute l'image en suivant cette ligne de fuite. Et de gauche à droite, il y a une bande rouge, une orange, une verte, une bleue. En bas, entre la bande rouge et la orange, il y a trois personnes qui sortent de ce grand drapé arc-en-ciel. On devine que les bosses sur le reste sont en fait des personnes qui sont sous ce grand drapeau. Bon, vous l'aurez deviné, j'ai décrit plusieurs photos. Il y en avait 9. En fait, c'est 9 photos parmi 48. C'est 48 photos que j'ai sélectionnées dans mes milliers de photos. Et sur ces 48 donc, que j'ai sélectionnées, je les ai tirées en format A2. Et elles sont sur un mur, là, depuis quelques heures, comme une grande fresque. La plupart de ces photos, elles sont tirées de séries que j'ai ou qui sont en réflexion, en gestation, en cours de réflexion, quoi. Et toutes ces séries ont été ou sont alimentées en partie ou totalement par des photos de mouvements sociaux. Je suis parti de ma préférée que j'ai disposée au centre du mur. Et puis après, j'ai disposé les autres autour en fonction d'accords de couleurs, comme celle du tag rouge qui est à côté de celle de la fumée rouge. Ou alors, des fois, je les ai disposées parce que y avait des accords ou des oppositions entre elles, ou des fois qui se complétaient dans ce qu'elles montraient, comme celle du type qui filme avec son portable, qui est probablement un RG d'ailleurs, et qui est à côté de celle qui tire le feu d'artifice. Ou alors, je les ai aussi disposées en fonction de la réelle position dans l'espace du sujet qu'elles ont. Je ne sais pas si c'est clair, mais en gros, par exemple, la personne qui est dans la fenêtre au deuxième étage, elle est disposée tout en haut de la fresque, par exemple. Voilà, donc du coup, c'est une œuvre en fait, que j'ai créée là et qui est en ce moment en expérimentation dans un lieu à Millefeuille, au Quai des Antilles. C'est un lieu qui est à disposition. On est 3 artistes à mettre en place notre œuvre. Et c'est pour ça que je suis arrivé en retard tout à l'heure, là, parce que j'étais en train de finir là, d'accrocher les 48 photos. J'ai plus de pouces, là, parce qu'ils ont enfoncé des punaises pour faire tenir. J'en peux plus. C'est un peu comme quand on était enfant et qu'on jouait à PlayStation, là, et qu'on appuyait sur les touches, là, à la fin, on avait mal aux pouces. Là, c'est pareil. Enfin voilà, donc du coup c'est à l'espace Millefeuille au Quai des Antilles, et puis donc je le présente à des professionnels demain, et puis en fait vendredi matin de 9h30 à 11h30, c'est accessible au public, et du coup aussi au pied de cette fresque il y a aussi des objets qui seront disposés, et puis le titre de mon œuvre c'est Dialogue social, je n'en dis pas plus, voilà.
Merci beaucoup, Suvan, pour ces multiples photos. Maintenant, passons à une dernière musique. C'est Hand de Ashken. We'll be right back. C'était Honte de Ashkun. Et on se quitte là-dessus. Voilà, Curiosité, c'est terminé pour ce soir. Merci pour votre écoute et surtout merci à l'équipe d'aujourd'hui. Merci à Mangan pour le grand entretien à ses invités. Merci à Chloé pour le Zoom et son invité Ronan Moinet. Merci à Suvan pour sa chronique Écouter la photo, un peu spéciale. Et merci à Seb à la Réal. Comme chaque semaine, vous pouvez retrouver le podcast de l'émission sur le site de Prune, prune.net. Retrouvez Curiosité dès demain à 18h pour la fameuse émission musicale du jeudi où nous recevrons pour un live en studio le duo rennais Krugnudu. Et tout de suite sur Prune, c'est le Labo des Savoirs qui commence, l'émission scientifique qui active tes synapses. Restez à l'écoute et bonne soirée sur Prune.
Curiosité. Du lundi au vendredi de 18h à 19h et en podcast sur prune.net.